Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
This is 476 Barbary, right?
Yeah, I'm renting this place.
No, I booked it a month ago.
Are you sure you have the right place?
Yeah, what am I supposed to do?
Why don't you come inside and we'll call these idiots. Why don't you just crash here?
Oh, no.
I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. It's dry and there's a lock on the door.
Barbarian ou Barbare, selon où on le regarde. Le premier film de Zach Cregger avec Georgina Campbell, Bill Skarsgård et Justin Long. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Justin ne l'a pas vu, Lila ne l'a pas vu, donc ils sont en chambre de suppression sensorielle. Et nous, on l'a vu, et c'est Léa qui va le pitcher,
oui,
du mieux qu'elle peut.
Donc on a le personnage de Tess qui arrive à Détroit, dans une partie de la ville qu'elle ne connaît pas, pour louer une maison, afin d'être à Détroit pour préparer un entretien d'embauche le lendemain. Mais une fois arrivée sur place, elle constate que la boîte à clés est vide et qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il s'avère que deux personnes ont loué le même jour la même maison. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette situation, ma foi, inconfortable? On verra. Bon, mais il y a Bill Skarsgård, donc est-ce que finalement
ce ne serait pas une chance?
Oui, voilà. Est-ce que ce ne serait pas le rêve de toute personne fan d'horreur ici?
Peut-être. Attends, il est musicien dans, ouais, un truc sur lequel elle travaille.
Il est beau. Il est gentil. Il est gentil. De quoi.
Autant vous dire qu'il va pas faire long feu.
C'est la rom-com de l'année. Voilà, allez le voir. Non, on vous en dit pas plus. C'est hyper mignon. Bah oui. Non, mais voilà. Après, de toute façon, on va parler du reste. Mais c'est le pitch. C'est le début, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé, Léa?
Bah moi j'ai beaucoup aimé, alors super moment devant ce film. Bon, c'est vrai qu'on est un peu tout le temps en mode, mais pourquoi vous faites ça? À zéro moment, c'est réaliste. Aucune réaction de aucun personnage dans le film n'a fait sens pour moi. À part peut-être le fait que Tess cherche à protéger Keith, du coup joué par Bill Skarsgård, parce que bah j'aurais fait pareil. Mais bon, pour des raisons qui me sont propres. Là c'est quand même un peu abusé. Mais alors vraiment c'était vraiment surprenant, je pense que j'ai pas été surprise comme ça, en plus pour le coup je m'étais fait spoiler sur Twitter bien avant, donc merci, voilà, sur notamment les créatures, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la deuxième partie du film, le personnage de Justin Long, j'ai trouvé hyper, il est pas subtil du tout, mais je l'ai trouvé bien utilisé. On pense que le personnage va aller à un moment, à un endroit, on pense qu'il va y avoir un arc de rédemption, peut-être. Au final, non. Enfin, ça, j'ai trouvé ça super drôle et super bien amené. La créature est stylée, ça fait peur, il y a de la tension. Et c'est ça, je pense que ça parle à beaucoup de peur qu'on peut avoir tous, d'être pas seul chez nous.
La peur et en de plus, pas pouvoir choper Bill Skarsgård.
Oui, mais oui, purée. Une peur vraiment...
Bah, sachant qu'au début, elle a peur de Bill Skarsgård.
Bah oui, mais c'est, oui,
mais c'est
pour ça qu'ils l'ont choisi
aussi. J'ai beaucoup aimé dans le personnage, c'est qu'en fait, elle est très courageuse, dans le sens où elle va toujours se mettre en danger pour les autres. Par contre, pour elle-même, elle est toujours très intelligente et elle fait toujours très attention. C'est-à-dire que quand elle arrive face à Bill Skarsgård, au début, elle est quand même très méfiante. Et à raison, d'ailleurs, parce que Bill Skarsgård, qu'il est, n'est-ce pas?
Non, mais c'est sûr. Mais après, moi, je me pose un peu la question quand même de... à quel moment... En tant que femme, je ne sais pas si tu es d'accord, Léa. À quel moment tu rentres dans le Airbnb? Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il lui ouvre la porte, il lui dit « Bah oui, moi aussi, j'ai booké le truc. Rentrez, on va appeler. » Mais il ne lui montre pas sa résa avant qu'elle rentre. Et du coup, moi, vraiment, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est à quelle heure le mec te dit « Non, mais vas-y, rentre dans l'Airbnb. » Et tu dis « Ouais, ok. » Bill Skarsgård ou pas, personnellement, je fais demi-tour, je rentre dans ma voiture et je passe à autre chose.
Ce que j'ai bien aimé avec l'utilisation aussi de Bill Skarsgård, c'est qu'il y a certains trucs qu'il fait, où tu le regardes, tu fais « Ok, c'est quoi ?» C'est un mec qui sait qu'il pourrait faire un truc qui est creepy, du coup, il dit qu'il fait quelque chose pour pas que ce soit creepy, mais ça l'est quand même. Comme son exemple avec sa bouteille de vin, là, où il y a sa bouteille avec un nœud pape qui est dessus, parce que c'est un truc qu'il a dû recevoir en cadeau.
Non,
c'est dans le Airbnb.
Et il est là, et la fille elle arrive, elle fait « Bah voilà, j'ai pas ouvert la bouteille, parce que je pense que si je l'avais ouverte sans que tu sois là, tu te serais méfié. » Moi je suis là, je fais « Bah, mais vu que tu donnes l'explication, c'est-à-dire que tu es au courant aussi des trucs, donc c'est pas forcément très rassurant non plus. »
Pour moi, la scène où elle rentre justement dans le Airbnb, qui est une scène qui est extrêmement esthétisée, justement, où on a une vue de profil et il y a vraiment un franchissement de seuil. En fait, pour moi, c'est le déclencheur de tout ce qui va justifier qu'elle franchisse des seuils après. Mmh. C'est-à-dire parce qu'en fait, dans le film, donc il y a une porte, puis après il y a une deuxième porte, ouais. puis après il y a une troisième porte. Mmh. Et heureusement, Dieu merci, il n'y en a pas de quatrième, pour ainsi dire. Après, c'est plus tellement des portes, mais c'est des
enfilades.
Des enfilades, oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, justement, c'est cette idée qu'à chaque fois, elle franchisse un seuil, à chaque fois, je trouve que ça apporte énormément de tension dans le film en se disant, on arrive dans une zone de danger plus, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui marche très bien là-dedans.
C'est ce qu'on n'a pas dit, mais dans la maison, il n'y a pas qu'un seul intrus. Il n'y a pas que Bill.
Oui, en fait,
il y a aussi une porte cachée au sous-sol qui mène vers un endroit bizarre.
Justin, c'est le moment d'arrêter. D'écouter.
qui mène vers un endroit bizarre. D'ailleurs, au début, quand le truc arrive, je suis là, parce que bon, je sais pas si vous êtes un peu au courant des théories complotistes américaines, notamment dans les années 80-90, il y a eu des histoires de sectes pédophiles souterraines aux États-Unis, où ils choperaient des gamins dans des
couloirs. C'était la Satanic Panic.
C'est ça. Genre j'ai vu le truc, il fait t'as le lit, t'as la caméra et tout, moi je suis là, oula, donc on parle. Hein.
Drôle d'ambiance.
Et en fait, c'est pas des sataniques.
C'est pas des satanistes.
Mais du coup, t'as ce côté, on en a parlé un peu avec François sur Messenger, t'as le côté un peu backroom ou liminal space.
Complètement.
Où, on citait aussi le livre La Maison des Feuilles.
Ouais.
Où c'est complètement ça, c'est-à-dire t'as une maison où un jour il y a une porte qui apparaît, et puis dans cette porte il y a un couloir qui est beaucoup trop grand, qui devrait pas être là. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire ils s'enfoncent au fur et à mesure dans le truc. D'ailleurs, dans la première partie, ils vont pas très loin. Dans la seconde, il y va plus. D'ailleurs, là maintenant, il y va. Et je trouve ça extrêmement
c'est
drôle.
C'est extrêmement drôle. C'est
hyper bien amené.
Hyper drôle. Parce que du coup.
C'est vraiment, il y va parce que c'est un connard.
Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette. En fait, on y retourne énormément dans cette maison. C'est-à-dire qu'à la fois, elle y rentre une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois, elle y retourne encore. Et à chaque fois, elle est encore plus en panique qu'avant. Mais lui, donc le personnage de Justin Long, qui arrive après. Il est vraiment, il a, en fait,
qui est le propriétaire de la maison.
Qui est le propriétaire de la maison, voilà. Il fait ça. En fait, à aucun moment, il est phasé par le fait qu'il y a un immense couloir maléfique dans sa baraque. Vraiment, il est juste en mode, oh là là, faut que je me suis. Ah oui.
Ça me fait plus de sous.
Est-ce que je vais pouvoir la vendre plus cher, ça sort.
Et c'est hyper drôle. De toute façon, c'est un film, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, en fait, qu'il y avait beaucoup de scènes très drôles. Et moi j'ai passé je regrette vraiment amèrement qu'il soit pas sorti en salle parce que j'aurais adoré le voir au cinéma.
D'ailleurs le second personnage, parce qu'on y a le film est construit un peu comme Psychose. Si vous avez jamais vu Psychose de Alfred Hitchcock, c'est dommage pour vous. Déjà allez le voir et voilà. Parce que attention spoil, Psychose au début du film, tu suis une héroïne et au milieu du film elle se butait. Et donc après, le film reprend avec une autre héroïne qui va revenir dans l'hôtel également de Norman Bates, et c'est elle qui va terminer l'histoire. Et en fait, là, t'as cette formule-là aussi, parce qu'au début, du coup, t'as les deux personnages, Tess et...
Kif.
Ouais.
D'accord. Tess et Kif qui, du coup, sont dans la maison, et au début, on sait pas, voilà, c'est Kif qui a l'air d'être le danger, et en fait, non, c'est pas lui. Et à la fin,
super chouette casting, pareil.
Ouais. À la fin, il meurt. Milieu du film, il meurt. La fille disparaît. Bon, il s'avère qu'on la revoit plus tard. En fait, qu'elle a survécu. Mais du coup, t'as un autre personnage qui arrive dans la maison et qui fait le même chemin. Et avec le côté, mais pourquoi il y a des gens dans ma maison Qu'est-ce qu'ils font encore là? Et ils trouvent la porte et puis ils s'enfoncent dedans. Et c'est pas du tout tourné genre de manière flippante. Alors qu'on sait qu'il y a un truc dedans. Mais lui, il est là, il est avec son maître, il est en train de mesurer les trucs. Et à chaque fois, il tombe dans un espace encore plus grand avec d'autres cages, d'autres trucs. Et il regarde le machin, il fait ah bon ? Putain, c'est bizarre. Bah, je vais mesurer. Jamais il se pose de questions, très bizarre.
Par ailleurs, ça me fait penser à un truc, le fait de parler de ce personnage-là. J'ai vu ça sur Letterboxd, j'ai pas du tout inventé cette comparaison, mais il y a une critique Letterboxd qui disait ce film réussit à faire tout ce que Men d'Alex Garland n'a pas réussi à faire. Et je suis à 200% d'accord. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur avec une représentation aussi juste de la masculinité. Et vraiment de ce côté, parce que bon bah oui, elle prend des décisions à la con, le personnage de Tess, mais en fait les décisions qu'elle prend, elles sont quand même
Elles sont altruistes.
Elles sont altruistes. Elles sont compréhensibles dans le sens où en fait, bah, elle, c'est juste une bonne personne. Elle a pas envie de laisser. Bah, surtout qu'en plus le premier, alors le deuxième, bon, tu te dis vraiment, il y a rien qui la retient à ce gars. Moi personnellement, je suis pas sûre que j'aurais eu la bonté de cœur de d'aller le rechercher. Mais non. Le premier, elle a quand même passé une soirée avec lui. En tant que personne qui a déjà pleuré pour des dates Tinder que j'ai vu une fois, je pense que je serais moi aussi allée le chercher, ne serait-ce que pour l'espoir d'un deuxième date.
Sa première réaction, parce qu'elle se retrouve bloquée dans le sous-sol, elle trouve la porte, elle voit la porte qui s'ouvre, sa première réaction c'est non, je rentre pas là-dedans, c'est mort. Ouais.
Mais lui, il va pour une raison qu'on ignore, et du coup, il y a quand même ce...
En fait, non, si, il y va, mais en fait, c'est juste il va parce qu'elle lui raconte ce truc-là. Et lui fait, mais attends, c'est quoi ça?
Ouais, mais il est pas obligé d'aller dans la deuxième cave.
Il est pas obligé, tu vois. Il aurait juste pu descendre, voir quand
il a vu la caméra, il remontait.
Il a décidé de partir. Ouais. Mais non, il y va et du coup, il se fait choper et voilà.
Mais du coup, tout ça pour dire que dans le personnage de Justin Long et dans cette façon qu'il a de traiter le personnage de Tess, j'ai vraiment vu. Il y a vraiment une espèce de d'horreur dans l'horreur. Qui est juste son comportement et la façon dont il prend ses décisions et notamment une des scènes que j'ai trouvé vraiment glaçante, c'est vers la fin où ils se sont échappés et en fait non, ils se sont pas échappés, la créature les poursuit, il lui a tiré dessus, il a tiré sur Tess un peu plus tôt, donc il en est très désolé et machin.
Parce que c'est un accident, alors pour le coup c'est un accident.
C'est un accident, mais du coup elle est blessée et donc la créature arrive et en fait il se barre tout de suite, ça m'a fait penser à Force Majeure. De Robert Osloon, où il regarde même pas derrière lui, il se barre et c'est elle qui doit se lever toute seule pour le suivre.
Et derrière, il l'attège.
Mais j'ai trouvé que cette demi-seconde là où vraiment la créature rentre et lui, en une demi-seconde, il est levé, il se barre. J'ai trouvé que vraiment il y avait une réflexion sur la vraiment la lâcheté masculine qui je pense faisait partie des choses que Alex Garland essayait de dire dans Men, dans ce film d'horreur sur la masculinité révolutionnaire, n'est-ce pas, qu'il a dit de manière beaucoup plus subtile dans un film. Voilà, c'est pas la peine de faire un film sur la masculinité pour faire un film qui montre la masculinité dans ce qu'elle a de plus, dans ce qu'elle peut avoir de plus lâche et de plus pleutre et de plus méprisable en fait.
D'ailleurs, ce personnage, ce coup, son personnage qui arrive, le propriétaire, très rapidement. Enfin, le premier truc qu'on sait de lui, c'est qu'il est accusé de viol.
Oui, par ailleurs, il est accusé de viol et il a totalement violé la personne.
Oui, c'est genre. Et en fait, il y a tout un passage dans le film où en fait, tu sais pas. T'as juste l'information comme lui qu'il est accusé.
Toi, peut-être tu savais pas. Moi,
non, mais
j'avais pas de doute. Hein.
Je me doutais que la réponse allait certainement être oui. Et en fait, mais il y a un moment qui te le confirme, c'est quand il parle à son pote en soirée où il raconte le truc de son point de vue et t'es là, tu fais bah non, bah, il l'a complètement violé en fait, y a pas de... c'est juste qu'il s'en est pas rendu
d'ailleurs,
compte.
D'ailleurs, je trouve que c'est ça qui
est intéressant. Il s'est pas remis en question.
Pour moi, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça met en parallèle finalement ce personnage-là qui est décrit comme fondamentalement mauvais, de toute façon ses actes sont systématiquement fondamentalement mauvais, alors que la créature elle-même, elle est plus ambiguë finalement.
Oui, elle est pas
vraiment... La créature est une créature... on peut dire, je sais pas, peut-être dégénéré, je sais pas quel est le mot, mais... Ou barbare, peut-être, c'est ça le titre du film.
C'est un miroir déformant d'une sorte d'idéal bizarre féminin. Tiré d'une cassette vidéo sur l'allaitement, c'est chelou.
C'est surtout
le produit, en fait, d'un inceste répété. Voilà.
Qui a des réactions un peu de maman ours face
qui, à... qui en fait a une maternité à moitié instinctive, puisque bah ouais, elle a de toute évidence et physiquement et mentalement en fait la répétition de l'inceste avec la même personne, puisque du coup on apprend ça au fil du film que en fait cette cave c'est une cave à meurtre, hein, et puis c'est une cave à séquestration. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le film, c'est la caractérisation des personnages qui est faite très rapidement et extrêmement bien. Et le fait que, bah, encore une fois, ouais, c'est pas obligé de faire des films sur un sujet. C'est pas obligé de faire des films d'horreur métaphoriques, où le monstre est en fait ceci, pour faire des films d'horreur qui parlent de vraies choses. Et là, je trouve que c'est vraiment bien fait, parce qu'à la fois, t'as ce côté hyper camp de cette horreur vraiment qui va à fond jusqu'au boutiste. La créature, elle est hideux, c'est affreux.
C'est un mec qui joue.
Il y a vraiment des scènes.
Ah ouais,
C'est Bill Skarsgård, non. C'est pas Bill Skarsgård.
C'est un gars. J'ai vu, ça m'a surpris parce que, effectivement, il y a tellement de prothèses que.
C'est un prosthétisme d'eau. Et c'est vraiment, voilà, t'as un côté. On en parlait en off, mais ça m'a fait penser à Malignant dans la façon dont l'horreur est vraiment. Elle va dans un côté vraiment très divertissant qu'on a un peu perdu. Mais.
Avec le côté urbex aussi, dans les deux films, il y a un côté urbex.
C'est très beau. Les, on dirait un peu, on dirait un escape game où je travaillais quand j'étais étudiante, c'est marrant, la cave. Mais à la fois, il y a derrière, c'est. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie réflexion, en fait. Il y a une vraie réflexion sur les dynamiques entre les personnages, sur ce qui fait que les personnages prennent telle ou telle décision. Il y a une créature, du coup, qui est pas une créature, en fait. C'est une personne, hein. C'est juste que, voilà. Mais, voilà, l'esthétique est telle qu'elle est. Mais,
c'est une personne très forte, hein. Un moment, elle arrache un mec en deux.
C'est une créature. Mais l'idée, quand même, c'est qu'à un moment donné, elle parle avec un SDF qui habite là. Et qui connaît, du coup, parce qu'en fait, cette rue, elle est vide, il n'y a rien d'autre que cette baraque, et un SDF qui habite dans un château d'eau, et elle lui dit, mais c'est quoi ce délire? Et il lui dit, c'est une nana qui habite là, quoi. Et c'est vraiment, en fait, il y a une subtilité qui est assez surprenante dans un film qui va aussi loin, vraiment, dans son côté horrifique, et qui montre vraiment que. Voilà, c'est pas tout rien, quoi. C'est pas à 24, on se peint le visage et on chante des chants grégoriens, ou alors on est 100% kemp, il y a rien derrière, malignante, tu vois, que j'ai adoré par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a
ça n'est parfait.
Il y a la possibilité d'avoir quelque chose qui parle de choses. Sans, parce que maintenant on a cette espèce de travers où voilà, pour t'as le film d'horreur métaphore d'un sujet de société, on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois, quoi.
Je trouve qu'il y a quand même un côté assez métaphorique dans le sens où ils sont donc dans Détroit, dans cette espèce de zone complètement je sais pas comment on peut dire, mais effondrée, on peut dire ça un peu comme ça, effondrée, et qui serait redevenue une sorte de zone barbare. Et donc, ça montre...
De lieu de non-droit, oui.
Ouais, en fait, ça m'a fait penser... C'est marrant parce que la vibe du film, c'est presque une vibe de film post-apocalyptique, quoi. En tout cas, dans cette zone-là. Et ça montre une sorte... Pour moi, il y a quand même une métaphore d'une forme d'effondrement moral de la société, d'une certaine manière. Qu'elle rentre dans un truc où, forcément, elle est stressée par ce qui se passe. Et lui, de toute façon, le propriétaire, je le mets les deux en parallèle, représente finalement, je sais pas, le capitalisme triomphant, on va dire ça comme ça. Qui maintient cette zone-là. Donc
mais
quand même...
c'est, le truc, c'est que c'est une interprétation que tu fais et que je trouve très juste, mais elle nous est pas, présentée comme étant le end all be all du film. Tu vois, c'est peut-être que par rapport à un film comme Men ou même comme d'autres films qu'on a vus.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais en fait, dans la seconde partie, t'as le personnage du propriétaire qui se fait déshumaniser au fur et à mesure, et à contrario, t'as la créature qui se fait humaniser de plus en plus plus tard. Parce qu'en vrai, le vrai monstre, c'est pas la créature.
C'est pour ça que, pour revenir au titre du film, c'est une réflexion sur c'est quoi finalement un barbare. Finalement, qui est le barbare dans cette histoire?
C'est le vieux.
D'ailleurs, t'avais une très bonne anecdote sur pourquoi le titre Barbarian aussi.
C'est encore Letterboxd. Merci, merci Letterboxd. À cette appli. Les gens ont dit You can't spell Barbarian without Airbnb. Et j'étais. Ah ouais, c'est pour ça que le titre est comme ça fait sens.
C'est marrant d'ailleurs, je sais pas d'où il vient le titre, parce qu'en fait il est pas du tout...
C'est le nom de la rue, mais c'est tout, quoi.
Ouais, c'est barbarisé.
Non, puis aussi c'est une zone, ça, pour moi c'est une zone qui redevient une zone barbare au cœur de la so-called civilisation, on va dire ça comme ça. Et finalement la question c'est qui est le barbare entre cette espèce de créature, on va dire, je vais redire le terme, enfin de mère, ou je sais pas, elle s'appelle la mère je crois, je sais pas quel nom elle a.
Au générique elle est écrite.
C'est la mère. Et le propriétaire. La question, c'est justement quelle est la réflexion là-dessus.
Surtout, dans la première partie, t'as tout un truc sur cette zone de Détroit où quand elle arrive de nuit, il y a la maison, ça va. Ouais. Quand elle sort le lendemain, tu vois que c'est
Détroit, quoi.
C'est une région qui a pas été encore retravaillée. Enfin, genre, t'as une maison qui est en état et puis
Je reprends ce que je dis. Pour moi, c'est vraiment une région qui s'est effondrée. En fait, on parle souvent de grand effondrement civilisationnel, mais en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des zones du globe où la civilisation, où le monde s'effondre.
Mais c'est ça
comme
aussi
la Syrie a pu s'effondrer, ou comme Détroit a pu s'effondrer.
Mais
ou
c'est ça qui est fascinant avec Détroit, c'est qu'aujourd'hui, je parlais du Urbex tout à l'heure, mais c'est complètement ça. T'as des zones de Détroit, c'est comme dans le dernier Jarmusch. Avant-dernier ? Avec les vampires, là.
Dead Don't Die ?
Non,
les vampires.
Parce
que c'était encore tourné à Détroit, et c'était, tu voyais des théâtres avec une grosse fissure en deux, la nature qui apprend ses doigts.
Oui, parce que dans la réalité, c'est comme ça.
Mais justement, ça qui est marrant avec Détroit, c'est que t'as le centre de Détroit, qu'on voit d'ailleurs dans le film, c'est la civilisation. Y a des voitures, il y a des gens, il y a des Starbucks, voilà. Et puis t'as des coins de Détroit où il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a les bâtiments, il n'y a plus personne.
C'est marrant ce que tu dis. Je réfléchis, mais finalement, est-ce que c'est pas une réflexion un peu sur ce qu'est... Qu'est-ce que c'est la dégénérescence, en fait ? Parce que finalement, on a ce personnage de la créature qui est le fruit de plusieurs incestes, a priori, de ce qu'on comprend. C'est-à-dire, c'est...
Bah,
c'est
de, ouais.
de multiples incestes.
Bah, en, oui, plus, en, fait, c'est, en plus d'un en fait, enlèvement
c'est,
et tout.
En fait, c'est, non, en fait, il en a élevé une, il en a enlevé
une. Il en a capturé une, il a capturé une,
il a fait un enfant avec. Ensuite, il a fait un enfant avec l'enfant, un enfant avec l'enfant, un enfant avec l'enfant.
Donc, quelque part, la créature...
C'est bien qu'il le montre pas.
Non, il le montre pas.
Non, ça va, oui.
Donc, la femme, le personnage a une dégénérescence génétique, on va dire, d'une certaine manière. Et pourtant, elle a des côtés plus humains que Justin Long, qui lui a une dégénérescence purement morale.
Voilà. Ouais. Complètement. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que par rapport à ce que je voulais dire par rapport à la pure métaphore et en mettant ça en opposition avec Barbarian, c'est que là on a vraiment une discussion en fait.
Oui, c'est pas un film à sujet.
Voilà,
avec une
on peut dire bah moi ce que j'ai vu c'est ça, moi ce que j'ai vu c'est ça. Alors que quand on est sorti de Men par exemple, bon bah personne n'avait une interprétation différente puisqu'il y en avait qu'une. Voilà. Et que, voilà. Et oui. Mais en tout cas, c'est un film, je pense, qui est extrêmement enthousiasmant. Ouais.
Et on n'aurait pas cru en plus comme ça en voyant le film spontanément, on se dit bon.
Puis sur Disney Plus, alors que moi j'ai trouvé il y a des plans visuellement qui vont me hanter.
Mais après, c'est aussi la présentation sur Disney Plus. Tu vois l'image, la fille sur un espèce de fond rouge en pas très bonne définition. Tu vois le machin, tu fais c'est quoi cette merde.
En tout cas, ouais, c'est dommage.
C'est un truc de Home Invasion un peu quelconque, alors qu'en réalité ça a beaucoup plus de.
Après, il a quand même fait pas mal parler de lui.
Ouais, ça buzz bien.
En tant que genre Home Invasion, je trouve que c'est un truc intéressant parce qu'en fait, c'est les gens qui rentrent dans la maison qui sont déjà des intrus.
Voilà, ouais, c'est ça.
C'est les personnages principaux, les intrus, c'est pas les monstres ou la créature.
T'as vu The Good Neighbor?
Non, pas encore.
Je te le conseille.
Okay. Par contre, ça m'a fait tellement penser à Don't Breathe. Enfin, c'est oui, à Détroit.
Parce que c'est à Détroit.
Le meilleur truc. Le même truc de descente en enfer et tout. Enfin, mais...
Après, moi, j'ai pas du tout aimé Don't Breathe.
Bah, c'est vraiment
Don't
pas Breathe, le même genre de film.
Don't Breathe, c'est plus un thriller, que vraiment un film d'horreur. Mais alors que là, c'est vraiment un film d'horreur.
Beaucoup de thèmes analogues, quand même. Mais très très bien et beaucoup plus.
Ouais, très bonne surprise aussi.
Ouais, beaucoup plus intelligent qu'on pourrait le croire au premier abord.
Oui, oui.
Donc ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu de sortie ciné en France, mais du coup,
je
on
pense
vous
que c'est
encourage
le rachat
à...
de la Fox qui fait que ça a été distribué sur.
Ouais,
entre
c'est
sur
bien
cinéma,
aussi,
malheureusement.
Ouais. Mais du coup, on vous encourage à
on
le,
reverra à la
le voir sur
dans
le plus grand, ouais, le plus grand écran possible. Barbarian, c'était très
le
bien.
Le programme avec Malignante.
Voilà,
oh, oui,
présenté par Isabelle. Accrochez-vous.
Mes deux films préférés de la décennie.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.